Option. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Bonjour Lionel Sabot.
Et bonjour Nicolas Legrand.
On va s'intéresser ce matin au sauvetage en mer. Vous recevez pour en parler le directeur du COSNC.
Oui, Nicolas Chomard, bonjour.
Bonjour Lionel, bonjour aux auditeurs.
Directeur du COSNC, le centre opérationnel de surveillance et de secours. J'ai mis les S dans le bon sens.
Oui, sauvetage, mais c'est secours, c'est pareil.
Et voilà, secours ou sauvetage. Nicolas Chomard, pour commencer cet entretien, on va peut-être rappeler ce que c'est que le COS. Alors, c'est le sauvetage et le secours, mais quelle est votre zone de responsabilité?
Alors, le COS, c'est effectivement d'abord un centre opérationnel, c'est-à-dire qu'il est ouvert tous les jours de l'année, de jour comme de nuit, qui effectue des missions à la fois de surveillance, c'est-à-dire en lien avec les anticipations dans des enjeux de sécurité maritime notamment, surveillance de la navigation maritime et des pollutions, ce genre de choses, et également la coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritime.
Voilà, vous êtes en gros la tour de contrôle des mers en Calédonie ?
Oui, il y a vraiment deux gros volets. Il y a un volet vraiment surveillance, anticipation des situations à risque, soit la navigation commerciale ou d'autres enjeux, la division des renseignements de sécurité maritime. Et d'un autre côté, un gros volet opérationnel où on coordonne que des opérations, qu'elles soient d'assistance aux navires qui sont en panne ou de sauvegarde de la vie humaine, à coordonner des opérations pour faire des recherches et des sauvetages de personnes qui seraient en danger en mer.
Quand vous parlez de coordination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens physiquement du COSNC qui vont sur mer pour aller secourir des gens. Vous êtes vraiment dans la coordination, c'est vous simplement qui dites aux uns et aux autres, il faut aller ici, il faut faire ça.
Tout à fait, c'est exactement ça. On n'a pas de moyens de sauvetage en propre. Le COS, c'est vraiment un centre qui coordonne, c'est-à-dire c'est lui qui travaille qu'avec des partenaires et qui, en fonction de l'opération et en fonction de la gravité, de la zone et du type d'opération à mener, le coordinateur de mission sauvetage du centre décide d'engager tel ou tel moyen. Et ensuite, on coordonne les moyens qu'on a engagés. Alors, les partenaires nous passent le moyen ou pas pour cette opération. Et une fois qu'on a le moyen, on briefe le moyen, on lui donne les instructions, les zones à effectuer, on coordonne le moyen jusqu'à la fin de la mission. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, quels sont vos partenaires et de quels moyens, finalement, disposez-vous? Parce que c'est relativement large. Ça va de la SNSM au FANC, du bateau à l'hélicoptère, quoi, grosso modo.
Tout à fait. Alors, la zone, déjà, effectivement, vous avez raison de le rappeler, elle est très grande, puisque la zone de responsabilité du COS Nouvelle-Calédonie, elle est de 2,4 millions de kilomètres carrés, ce qui est énorme. Ça va au-delà des eaux sous souveraineté française en Calédonie. Et ça inclut également la République du Vanuatu. Donc déjà, faut le savoir, c'est pas neutre. Et après, pour intervenir, effectivement, on a plusieurs partenaires. Alors, on aura tendance à dire que les premiers partenaires du centre, ce sont les navires qui sont déjà sur zone, puisque c'est le but d'ailleurs de la veille VHF. Quand on a un problème en mer ou un navire qui coule au large, la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de dérouter des navires qui sont plus près, donc le plus rapide à intervenir. Néanmoins, il arrive parfois qu'on n'ait pas de moyens sur zone en capacité d'agir ou qu'ils ne soient pas adaptés pour l'opération en cours. Et dans ce cas-là, effectivement, on va solliciter un de nos partenaires institutionnels du territoire. Alors ça peut être effectivement les moyens aériens des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Ce sont également les vedettes de la SNSM, mais ça peut être également les vedettes de la gendarmerie nationale, les vedettes des provinces, les sapeurs-pompiers, dans toute une série d'acteurs qui ont des moyens plus ou moins adaptés pour faire des opérations SAR. Alors c'est souvent le cas d'ailleurs des moyens aériens des forces armées en Nouvelle-Calédonie qui interviennent souvent par exemple sur les évacuations sanitaires de paquebots comme on en a eu récemment.
En parlant d'opérations, il y en a une dont on parlait juste avant d'entrer dans le studio, c'est celle de vendredi dernier avec cet homme d'une soixantaine d'années qui tombe à la mer, qui reste 2h30 à la mer. Tout se termine bien, c'est une belle opération comme on dit dans votre jargon finalement.
Alors oui, pour le COS, c'est un motif de satisfaction important puisque ce type d'opération d'homme à la mer n'arrive pas tous les jours. Il y en a une ou deux par an, pas plus. C'est pas si fréquent que ça qu'on retrouve les personnes tombées à la mer, que ce soit d'ailleurs de jour, et c'est souvent plus compliqué de nuit. C'est une belle opération, mais déjà, elle commence bien cette opération, si je puis dire, parce que les personnes s'en rendent compte et surtout nous appellent tout de suite. Il arrive parfois que des gens aient un problème en mer ou perdent quelqu'un et ils nous appellent après avoir commencé par exemple les recherches. Ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'ils ont contacté le centre tout de suite et ça c'est très important. Donc le COS, à partir du moment où il a l'information, il peut engager un nombre de moyens importants, diffuser d'abord un message de détresse, relayer l'information en mer, ce qui a permis à un certain nombre de navires qui étaient déjà sur zone de se dérouter et de commencer à rechercher très rapidement. Et ensuite, il y a un beau travail de coordination, oui, entre le COS qui effectue le calcul des zones de recherche et les moyens qui sont engagés par le centre. Et dans ce cas d'espèce, il y avait la pilotine des pilotes maritimes qui étaient déjà sur zone, mm-hmm. ainsi que des navires privés. Et on a engagé la vedette nautile de la station SNSM de Nouméa, qui d'ailleurs, ensuite, une fois qu'elle a été arrivée dans la zone, est tombée sur la personne. Mmh. Donc c'est une belle opération parce que surtout, on a retrouvé la personne en vie. À la mer, une personne à la mer de nuit, c'est assez rare. Ouais. Pour être souligné, effectivement, c'était une très belle opération. Et je pense que cette personne, voilà, qui est saine et sauve aujourd'hui, je pense qu'elle fera attention.
Vous le disiez, il faut contacter le secours en mer. Alors on sait que les pompiers, c'est le 18, la police, c'est le 17. Le 16, c'est le secours en mer, c'est ça?
Enfin,
c'est un chiffre qu'il faut retenir de la même manière que le 17, le 18 et le 15 pour le SAMU.
Exactement, c'est le 16. Voilà, ça fait partie des numéros d'urgence à savoir, qui sont assez simples à retenir. 16, c'est les secours en mer, c'est le COS. C'est un appel qui est gratuit, on tombe sur nous tout de suite, tout le temps, et on nous dérange surtout jamais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à appeler le 16, même si on pense que c'est un petit problème, qu'on ne va pas déranger. Non, nous on ne dérange jamais, on est là pour ça. Même si le problème se résout tout seul, il vaut mieux nous appeler que ne pas nous appeler et que ça dégénère. Mmh.
Alors il est un peu tôt pour tirer le bilan de l'activité opérationnelle de 2024. On peut peut-être parler quand même de la fin 2024 jusqu'à aujourd'hui, cette période de vacances scolaires. Il y a une activité qui est intense pour le COS-NC.
Oui, tout à fait. Depuis le début des vacances scolaires, donc de mi-décembre jusqu'à maintenant, donc ça fait un mois à peu près, on a eu une activité opérationnelle qui a été très soutenue pour le centre, beaucoup plus soutenue qu'à d'autres périodes de l'année. Alors, c'est assez habituel, parce qu'en décembre, janvier, ce sont quand même des mois où on a un pic opérationnel. Mais là, tout particulièrement, on a eu 40 opérations en un mois, donc beaucoup plus qu'une opération par jour, avec deux grandes thématiques qui ressortent des opérations classiques. Une première thématique avec un nombre d'opérations liées à l'aide médicale en mer importante, notamment sur les paquebots, avec quand même en tout 5 passagers qui ont fait l'objet d'une évacuation sanitaire, avec un engagement aérien, notamment des moyens défense, assez conséquent. 9 heures de mission pour le Puma des forces armées, et également la SNSM qui a été engagée sur certaines de ces évacuations sanitaires. Et après, un autre type d'opération assez importante, qui était les opérations en lien avec tout ce qui est les activités subaquatiques. Alors je le précise parce que on a eu notamment en un mois 2 décès à déplorer quand même sur une activité, la chasse sous-marine. Donc moi si aussi un message que je pouvais faire passer ce matin, c'est attention, la chasse sous-marine c'est quand même une activité à risque, et en l'espace d'un seul mois on a eu 2 décès, une personne qui s'est noyée à Lifou qui pratiquait la chasse sous-marine seule, et une personne, on connaît l'affaire, qui a été attaquée par un requin à Comac. Mais cette activité de chasse sous-marine est quand même en ce moment l'activité la plus à risque.
Vous appelez les gens qui pratiquent cette activité qui se pratique beaucoup en Calédonie, vous appelez à la prudence, à faire plus attention que d'habitude?
Alors on appelle effectivement déjà fortement à la prudence en ce moment, parce que on a un sujet requin assez fort en ce moment sur cette activité de chasse sous-marine qui est, nous, d'un point de vue statistique, l'activité la plus à risque pour la prévention requin. Et après, de manière particulière, il y a quand même des choses à ne pas faire en chasse sous-marine. Il ne faut pas chasser seul, il ne faut pas chasser à la tombée du jour, voilà, il ne faut pas chasser de nuit, voire même s'interdit. Et donc tout ce genre de sujet, là, c'est des messages de prévention à faire passer, mais dans certaines zones, ce sont des choses qui sont très pratiquées, et donc des problèmes qu'on a derrière.
Vous parliez du risque requin il y a un instant, j'aimerais qu'on y revienne dessus. Beaucoup de signalements, beaucoup d'attaques ces dernières semaines, ces derniers jours.
Alors de la même chose que je vous disais, que depuis un mois on a une activité opérationnelle d'un point de vue opérationnel très soutenue. Sur le sujet requin, en ce moment on est en zone rouge, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un risque maximum, je considère, sur le sujet requin. On a quand même eu depuis un mois 9 signalements de requins, ce qui est assez important. Et là cette semaine on a un signalement par jour. On a des grosses squales en ce moment qui sont près des côtes, c'est constaté, c'est observé. On a un comportement agressif des squales qui est constaté également. Et surtout, on a en 15 jours 3 attaques. Donc, 3 attaques, dont une mortelle. Si je devais classer les risques sur une échelle de 1 à 10, en ce moment, je pense qu'on est à 10. Voilà. Donc, il faut faire très attention. J'appelle à très grande vigilance sur le sujet requin en ce moment. Et partout en Calédonie, ce n'est pas un sujet qui est spécifique à Nouméa.
Quelles sont les consignes de sécurité qu'on pourrait donner pour essayer de minimiser le risque requin? C'est de se baigner dans les zones où c'est surveillé, Voilà.
Alors si vous êtes à Nouméa, effectivement, vous avez deux zones qui sont particulièrement protégées, donc c'est parfait. Mais le sujet étant, dans toutes les eaux Calédonie, il y a les messages de prévention classiques hein, que connaissent les provinces, que diffusent déjà sur le sujet requin, les communes aussi. Moi, d'un point de vue du COS, et d'un point de vue de ce qu'on sait, il y a quand même des choses qu'il faut éviter de faire. Il faut éviter de faire, encore une fois, j'y reviens, mais de la chasse sous-marine. Aujourd'hui, vraiment, la plupart des attaques ont lieu sur des chasseurs sous-marins. Donc il faut déjà, quand on fait de la chasse sous-marine, ne jamais pratiquer tout seul. Et quand je fais de la chasse sous-marine, on est à deux dans l'eau, on en a un qui est dans le navire, et c'est important. On ne fait pas de la chasse sous-marine tout seul, on ne fait pas non plus des activités nautiques, sport loatique, tout seul. Surtout dans des zones dites à risque. Si je fais du subfoil, pour vous donner cet exemple, entre le Rocher à la Voile et Nouville, je sais qu'en arrivant dans la zone nouvelle, je vais dans une zone dangereuse. Donc en ce moment, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Donc il y a certaines choses qu'il faut savoir, il faut se renseigner. Donc il y a des grands messages à faire passer. Mais effectivement, pratiquer seul, déjà, en soi, quand on est dans l'eau, est un risque.
Vous parliez de signalements qui sont très réguliers ces derniers jours. Comment ça se passe en termes opérationnels quand quelqu'un vous signale un requin? Qu'est-ce qui se passe au COSNC?
Alors, quand on nous signale un requin, la première chose que va faire le coordinateur de mission de sauvetage en lien avec le chef de car, on va faire une analyse de risque qui est basée principalement sur trois critères. La taille et l'espèce du squale observé, l'heure de l'observation, c'est-à-dire que si on a observé il y a 4 heures, forcément le risque est peut-être moindre, et surtout la zone, savoir s'il y a des gens qui pratiquent une activité qui pouvait l'objet d'un risque. Et c'est l'addition de ces trois facteurs qui nous permet, nous, de classer le risque en risque fort. Si ce n'est pas le cas, qu'il y a un des critères qui n'est pas rempli, c'est un risque faible. Et ensuite, on diffuse l'information vers les services de secours concernés en message d'information ou d'alerte. On travaille très bien sur ce sujet-là, par exemple, avec la commune de Nouméa, où il y a des échanges fluides permanents, et on échange avec le CTA CODIS, puisque la commune est responsable, elle, des secours ou de la prévention du risque dans les 300 mètres.
C'est-à-dire que vous, dans la zone plage 300 mètres, c'est pas votre zone de compétence?
Non, mais on travaille en lien, en fait, on échange en permanence, et même s'ils engagent, par exemple, un Zodiac pour aller vérifier si le squale est toujours là, le COS en est informé, on échange l'information, on est au courant quand il lève le moyen et que les gens peuvent retourner se baigner. Et inversement, quand nous, on a une information qu'eux, ils n'ont pas, on leur donne. Enfin, il y a un échange qui était fluide et un volet opérationnel très bien géré entre les compétences du maire et les compétences du gouvernement, puisque le COS travaille pour le gouvernement au-delà des 300 mètres.
Vous le disiez, vous êtes un peu la tour de contrôle des maires en Calédonie. Pendant les émeutes en mai 2024, vous avez eu des opérations de coordination, peut-être pour transporter des gens jusqu'au Médipôle. Je me souviens qu'on en avait parlé à un moment.
Oui, alors le COS, pendant les émeutes, a déjà maintenu son service H24. On n'a pas eu de rupture de service. Ça tient aussi à l'engagement des agents, je tiens à le souligner, c'est pas neutre. Et surtout, on a été en appui à la gestion de crise préfectorale du Haut-Commissariat et aussi de la DSCGR. On a effectivement eu, d'un point de vue opérationnel, toujours des opérations à coordonner, même pendant les événements, que ce soit sur les îles ou ici, les opérations SAR classiques. Et puis, on a eu à côté de ça, effectivement, le suivi, on va dire, et la coordination. Alors, on a fait une coordination, on fait surtout un suivi en lien avec nos partenaires habituels, notamment des nombreux transits maritimes qu'il y avait, que ce soit pour d'abord le Médipôle, puisqu'il y a eu des transits de personnel soignant vers le Médipôle pour qu'il y ait une garantie des soins, avec la SNSM notamment et le CNC. Voilà. Donc, nous, on suivait ça, puisque, comme vous dites, on est une tour de contrôle. On a les visions AIS et on sait un peu les navires où ils sont et ce qu'ils font. Donc, c'était d'avoir une vision d'ensemble. Et on a effectivement aussi coordonné des opérations de transport sanitaire de personnes, par exemple, qui s'étaient blessées à Nimbo et qui ne pouvaient pas passer par la voie routière et qui étaient et sur ce type d'opération au pic de la crise. On a quand même eu des bénévoles de la CNSM qui sont allés leur porter secours dans des conditions quand même assez dantesques par voie maritime. Donc voilà, donc c'est pas neutre.
Un dernier mot, Nicolas Chomard. Le week-end approche. On va peut-être penser à faire une sortie en mer. Allez, quelles sont les deux, trois, quatre consignes qu'il faut donner aux familles qui vont peut-être aller sur les îlots ce week-end?
Alors, la première mesure de prévention à prendre, c'est d'avoir un moyen d'alerte. Forcément,
téléphone
si j'ai un problème et que je ne peux pas alerter les secours, ça va être compliqué de savoir déjà que vous avez un problème et donc vous aider. Donc, avoir une VHF, à minima un téléphone étanche, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, un moyen de contacter le centre, privilégier plutôt la VHF parce que c'est fait pour ça, et de retenir le chiffre 16. Donc déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ensuite, une fois qu'on a ce moyen d'alerte, ne pas hésiter à nous appeler. Je le disais tout à l'heure, c'est essentiel. C'est-à-dire que souvent on hésite, il ne faut pas hésiter. Nous, on appelle, c'est pas grave, même s'il n'y a rien derrière, on préfère être appelé que pas être appelé. Le troisième message, c'est ne pas pratiquer seul, j'en parlais, certains types d'activités. Encore une fois, c'est souvent le cas quand il y a un problème. Et enfin, reprendre le matériel de sécurité qui est prévu par la réglementation et s'informer sur les conditions météo, puisque celles-ci peuvent des fois évoluer rapidement. Et quand on fait certains types d'activités, je pense à la pêche, par exemple, je sais pas, on est deux, on va faire de la pêche sur le récif à tel endroit, informer quelqu'un de là où je vais pêcher et de l'heure prévue de retour. C'est important parce que des fois, on a des inquiétudes et on ne sait pas si vraiment tout va bien ou pas. Et quand on n'a pas de zone précise, ça va être plus compliqué. Donc voilà un peu les messages, les grandes lignes des messages qui sont importants à faire passer.
Merci beaucoup Nicolas Chemard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur du COSENSE. Merci.